Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des violences conjugales ainsi que de l'ordonnance de protection qui est un outil fantastique pour aider à protéger les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors les violences conjugales sont encore plus importantes dans le contexte actuel du confinement, mais elles se produisent tous les jours dans le cadre familial. Alors la singularité des violences conjugales, c'est que ce ne sont pas des violences comme les autres, pour cela deux raisons. Premièrement, il s'agit d'un phénomène de société, à tel point qu'on a créé un mot pour les décès dans le cadre de violences conjugales. On appelle ça des féminicides. Et malheureusement, l'année 2019 a apporté un record dans ce domaine, puisque 148 femmes sont décédées au domicile familial, alors qu'en 2018, 121. Il y a donc eu une augmentation en 2019 et on s'attend à une très forte augmentation en 2020 compte tenu du contexte de confinement. 213 000 femmes majeures sont victimes d'au moins un acte violent de violence physique ou sexuelle et 88% des victimes sont des femmes. Il ne faut pas se voiler la face. Effectivement, il existe des hommes victimes de violences conjugales, mais 88% sont des femmes. 94 000 femmes en 2018 ont été victimes de viols. Seulement 10% portent plainte et sur ces 10%, il y a seulement 1% de condamnation des auteurs de violences. Deuxième raison pour mettre en place la singularité des violences conjugales, c'est qu'elles obéissent à des mécanismes propres. En effet, l'Organisation mondiale de la santé a défini les violences conjugales. Il s'agit de comportements qui provoquent des dommages physiques, sexuels, psychologiques, économiques et administratifs dans la sphère familiale. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de la sphère familiale, puisqu'il est accepté également les ordonnances de protection à l'égard des ex-conjoints, ex-concubins, même lorsque il n'y a plus de vie commune. Alors, le gouvernement a mis en place des structures. Premièrement, le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales, qui est un plan qui a été mis en place, en tout cas en Côte d'Or, qui permet à assurer l'accès aux droits et à renforcer les dispositifs pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences. Concrètement, ce protocole prévoit le renforcement de l'ordonnance de protection. Je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit. La généralisation du téléphone d'alerte pour les femmes en très grand danger, l'organisation de la réponse pénale et la prévention en direction des auteurs de violences. Il faut savoir que la garde des Sceaux, l'année dernière, a encourager les parquetiers, donc les services du procureur de la République, à poursuivre à chaque fois qu'il y a des violences familiales ou conjugales, c'est-à-dire à apporter dans chaque dossier une réponse pénale. Les officiers de police judiciaire prennent le temps d'investiguer sur tous les champs qui investissent ce domaine, notamment évidemment le champ économique, le champ psychologique, le champ des violences physiques, mais pas que. Alors, en ce qui concerne les violences conjugales, il y a un cycle qui existe, un cycle récurrent qui revient toujours et qui va en s'accélérant. Un cycle de quatre phases qui ont été mises à jour par des psychologues et des psychiatres. Première phase, c'est donc des tensions préalables qui vont bien évidemment en s'accélérant. La deuxième phase étant l'explosion des violences, donc c'est là qu'on assiste aux violences familiales. La troisième phase, c'est la justification par le partenaire, excuse-moi, c'est de ta faute parce que tu as fait ça, parce que tu as dit ça, etc. Et la quatrième phase, c'est la lune de miel, le partenaire propose des cadeaux, fait des promesses, etc., etc. Ces quatre phases reviennent toujours dans le même sens. Et évidemment, quand la première phase intervient, la femme victime de violence sait pertinemment que la deuxième phase va arriver également. Il faut effectivement faire attention à ce que la loi accepte qu'une femme vienne déposer plainte dans le cadre de la première phase, c'est-à-dire dans le cadre des tensions préalables, parce qu'elle sait que derrière, il va y avoir des violences conjugales. Alors à l'heure actuelle, il y a une rupture sociétale, hein, une volonté d'en finir avec ce phénomène, la parole des femmes qui se libèrent, hashtag MeToo, etc. Et le pouvoir législatif s'en est donc a donc pris en compte ce phénomène qui a abouti donc à un Grenelle et une loi du 28 décembre 2019. Ces violences sont évidemment exacerbées en période de confinement. En ce qui concerne les ordonnances de protection, cette ordonnance de protection existe depuis longtemps, mais la loi du 28 décembre 2019 a introduit la notion d'emprise et a rappelé la prohibition des médiations dans ce cas. Il est évident que dans ce cadre-là, aucune médiation ne pourra venir rassurer la femme victime et soigner l'auteur. L'ordonnance de protection s'inspire de la Convention de 2008 d'Istanbul, qui est applicable dans notre ordre juridique depuis 2010, complétée en 2014. Il ne s'agit pas uniquement de violences conjugales, il s'agit bien évidemment de violences pour toute la famille, puisque toute la famille est impactée. Alors, il y a aussi un travail qui est fait actuellement sur l'éducation des magistrats, puisque premièrement, l'ordonnance de protection est trop peu utilisée, mais aussi que lorsque l'ordonnance de protection est utilisée, le taux de rejet est très important. En France, en 2018, il y a eu 3332 demandes d'ordonnance de protection. Ce chiffre est évidemment à mettre en parallèle avec les 121 femmes tuées en 2018 et les 213 000 femmes majeures victimes d'au moins un acte de violence. C'est dire si les femmes victimes vont peu se plaindre, en tout cas ne vont pas jusqu'au bout de leur procédure parce qu'elles sont dans le cadre d'une emprise économique, administrative et familiale. En ce qui concerne la procédure d'urgence pour protéger rapidement les victimes, il existe bien évidemment des associations qui, en tout cas au niveau départemental, peuvent intervenir. Il y a une ligne téléphonique, Violence Femmes Info, qui est le 3919, qui est la ligne de référence et d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences, mais également pour les témoins. Il ne faut pas négliger les témoins, les voisins. Il y a localement un tissu associatif qui fait un travail formidable, notamment l'association Solidarité Femmes, installée à Dijon. Et bien évidemment, un grand nombre d'avocats concernés par le sujet qui peuvent aider ces femmes à sortir de leur silence et à lancer une procédure. Actuellement à Dijon, il y a une permanence 7 jours sur 7 des avocats pour ne jamais laisser un justiciable sans défense. Il faut bien évidemment agir vite et même agir quasiment avant le début des violences dans le cadre du cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne l'ordonnance de protection, elle peut être faite seule, même sans avocat, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger un formulaire de demande d'ordonnance de protection sur le site servicepublic.fr. Une fois rempli, il faut le transmettre au tribunal judiciaire de Dijon, boulevard Clémenceau. Vous avez la possibilité de faire la démarche par voie électronique. Normalement, et dans un cadre associatif, vous êtes mis en relation avec un avocat et l'avocat peut faire, même fait de façon tout à fait professionnelle, l'ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'il saisit le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une assignation et le juge aux affaires familiales lui donne une date d'audience. Alors, en ce qui concerne la violence même qui est gérée par cette ordonnance de protection, il faut savoir que l'ordonnance de protection peut intervenir même dans le cadre d'une absence de cohabitation. La notion de conjoint est donc très extensible au niveau de la loi. Elle peut intervenir également, et ça c'est l'article 515.13 du Code civil, dans le cadre d'un mariage forcé. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de violence physique, mais qu'une femme sait qu'elle va être mariée de force, à ce moment-là, elle peut agir dans le cadre d'une ordonnance de protection. Alors, en ce qui concerne l'ordonnance de protection, il y a une possibilité qui est très importante, qui est une possibilité de dissimuler l'adresse de la femme victime de violence lorsqu'elle a trouvé refuge, soit dans un foyer, soit chez des amis. Dans le cadre de l'ordonnance de protection, donc on dépose une assignation, on demande une date au greffe du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales nous donne une date et le délai entre le jour où le juge donne une date d'audience et l'audience est de 6 jours maximum. Ce qui veut dire évidemment que c'est une procédure particulièrement rapide puisque pendant ce délai-là, il faut que l'avocat fasse signifier l'assignation par un huissier à l'adversaire, que l'adversaire prenne un avocat et qu'il puisse se défendre de façon contradictoire. Cette audience se fait en chambre du conseil et le juge a l'obligation d'entendre les deux parties séparément si les parties le demandent. Si effectivement la femme est trop craintive et a peur, une peur terrible de rencontrer son conjoint, il y a une obligation pour le juge d'entendre les deux parties séparément. Alors, en ce qui concerne les mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales, elles sont très nombreuses. Déjà, il peut ordonner la résidence séparée. Le principe, c'est que c'est le conjoint violent qui part du domicile familial, même s'il s'agit d'un bien propre à lui-même et même si la victime a trouvé refuge ailleurs. C'est vraiment le principe qui est un principe très important et pour lequel le juge aux affaires familiales ne dérogera pas. C'est l'éviction du conjoint violent. Dans ce cadre-là, le juge aux affaires familiales peut également interdire au conjoint violent d'entrer en contact avec la victime. Il peut autoriser la victime à dissimuler son domicile. Il peut statuer sur une aide matérielle ou sur la contribution aux charges du mariage si les deux parties sont mariées. Il peut statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant. Et il peut également statuer sur une interdiction de port d'arme lorsque le conjoint auteur des violences est gendarme, chasseur ou policier. En revanche, il ne peut pas prononcer de mesure d'expertise ni de mesure d'interdiction de sortie du territoire. Cette ordonnance de protection est valable 6 mois et elle est prolongée parce que dans la foulée, l'avocat va introduire une requête en divorce ou une requête devant le juge d'affaires familiales. Les conditions donc, dans le cadre de cette ordonnance de protection, c'est premièrement les raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées. Alors, qu'est-ce qui peut amener un juge à considérer que les violences alléguées sont vraisemblables ? Eh bien, la preuve est faite par tout moyen, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement un dépôt de plainte, un certificat médical, des attestations, des SMS, des enregistrements, les voisins qui parlent, les enfants, etc. etc. La loi du 28 décembre 2019 est venue assouplir cette exigence puisqu'elle indique bien que le dépôt de plainte n'est pas indispensable. C'est-à-dire que quand on vous dit que la démarche à faire lorsque vous êtes victime de violence, c'est certificat médical puis dépôt de plainte, ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez très bien demander une ordonnance de protection quand il n'y a pas de dépôt de plainte. Et le juge aux affaires familiales doit considérer vraisemblables les violences alléguées et doit aussi pouvoir constater une notion de danger. Alors, pour ce cas, dans ce cadre-là, la loi a assoupli ces conditions puisqu'elles ne sont plus cumulatives. Il peut y avoir effectivement la constatation des violences alléguées, mais pas forcément la constatation du danger si, par exemple, les deux parties, c'est-à-dire la femme victime et l'auteur, ne vivent plus ensemble. Le juge peut également ordonner des mesures beaucoup plus coercitives, puisqu'il peut même interdire au conjoint violent de se rendre dans des endroits où la victime se rend, par exemple l'établissement scolaire des enfants, le lieu de travail de la victime. Il peut également mettre en place une aide financière pour la victime si elle souhaite se reloger ailleurs. Alors, pour l'instant, il existe des mécanismes pour rassurer les femmes victimes. On parle notamment du téléphone grand danger. C'est un téléphone qui est à la disposition du procureur de la République pour le donner à des femmes victimes de violences et qui ont peur que ces violences soient réitérées. C'est donc un téléphone qui vous met directement en relation avec les services de police qui interviennent immédiatement. Deuxième mécanisme qui n'est pas encore sorti, mais qu'on attend certainement pour le mois de septembre, c'est le bracelet anti-rapprochement, c'est-à-dire qu'il y a géolocalisation des porteurs, et à ce moment-là, lorsque les services de police se rendront compte que l'auteur de victime est dans un secteur qui lui est interdit, à ce moment-là, ils interviendront. Donc tous ces mécanismes évidemment existent, certains existent depuis longtemps, mais ont été renforcés par la loi du 28 décembre 2019, devraient, nous l'espérons, en tout cas les praticiens nous l'espérons, diminuer le nombre de féminicides. Bien évidemment, en contexte de confinement, c'est plus compliqué, mais il faut savoir que même dans le cadre du confinement, à une époque où les tribunaux sont moins accessibles, il existe toujours des procédures d'ordonnance de protection qui sont prises en compte dans le cadre de l'urgence, et il y aura des juges qui seront là, même dans le cadre de notre période, pour répondre à vos demandes.